Je commencerai par le souvenir d'une anecdote que j'ai apprise dans Critique, car on apprend beaucoup de choses dans Critique. J'ai appris dans Critique que Jean Dubuffet, le peintre, aimait à raconter l'anecdote suivante. Un jour, il s'était mis en tête de découvrir l'essence de l'oignon. Qu'est-ce que c'est que l'eidos d'un oignon? Et à cette fin, il avait commencé à enlever, une après l'autre, les peaux de l'oignon pour s'apercevoir qu'un oignon n'était fait que de peau. Eh bien, c'est exactement la démarche que j'ai dû adopter pour remplir mon petit contrat vis-à-vis de vous, c'est-à-dire pour passer en revue les textes et surtout les idées directrices qui ont présidé au choix de ces textes concernant les arts dans Critique sur une période assez longue, 1962-1996. Donc un gros oignon dont j'ai tardivement mais intensément dépioté presque toutes les peaux. Alors, je n'ai pas, au terme de ce travail en bibliothèque, qui m'a permis de rencontrer un comparse, au terme de ce travail, je n'ai pas découvert l'essence de Critique. Mais j'ai fait quelques petites découvertes qui m'ont surpris moi-même et que je voudrais vous présenter d'abord sous la forme de deux remarques générales. Première remarque générale, l'art, les arts, je n'inclus pas la littérature dans les arts, j'ai peut-être tort, mais c'est une autre affaire. Première remarque, donc, l'art ou les arts ont occupé pendant ces décennies, presque 36 ans, dans Critique, une place beaucoup, beaucoup plus importante qu'on ne le croit d'ordinaire, comme le signalait à l'instant dans sa présentation Philippe Roger. Sous le règne de Jean Piel, l'art a connu, tant en extension qu'en compréhension, j'emploie des termes que m'avait appris mon professeur de philosophie en terminale, extension et compréhension, un prodigieux développement. En extension d'abord, parce que, et c'est là j'ai eu vraiment une surprise, en extension, ce n'est pas seulement la peinture à laquelle Jean Piel était particulièrement attaché, comme je le rappellerai tout à l'heure, qui a fait l'objet de nombreux articles dans la revue. C'est aussi, et de plus en plus, selon un mouvement presque uniformément accéléré, la photographie, le cinéma, l'architecture, la musique, la sculpture, la danse et même la bande dessinée. Quelques exemples. La photographie est entrée assez rapidement dans la revue, en particulier grâce à, je crois que c'est une femme, Jean Keim. Je ne crois pas que ce soit Jean Keim, mais Jean Keim. En septembre 64, donc, sous le titre qu'elle avait choisi, « La photo est aussi un art ». Et elle dénonçait, je dis elle donc en partant du principe que c'était Jean, elle dénonçait la comparaison permanente que l'on fait entre photo et peinture, et avec des arguments très novateurs à l'époque, aujourd'hui c'est banal, très novateurs à l'époque, elle s'efforçait de déterminer à la fois l'autonomie de la photographie et l'importance de ses rapports, bien sûr, avec les autres arts. Et ces analyses assez fines, assez poussées, des photographes en vogue à l'époque, sont encore aujourd'hui, me semble-t-il, pleinement utilisables. Et elle concluait que la photographie, nous sommes en 64, restait pour les critiques et les théoriciens un vaste domaine à défricher. Le cinéma, lui, est entré de manière fracassante, je dirais, dans la revue, avec des articles très différents. Bruce Morissette, par exemple, est entré d'abord par la littérature. L'Immortel de Rob Grillet, par exemple, a été l'un des premiers articles publiés sur le cinéma pendant le règne de Piel. Mais aussi Christian Metz, qui non seulement a écrit une demi-douzaine d'articles dans Critique, mais qui a fait l'objet, par ses travaux sur la sémiologie du cinéma, aujourd'hui un peu oublié, un peu trop oublié à mon sens, a fait l'objet de plusieurs analyses. Critique s'est occupé aussi d'autres revues, et en particulier des cahiers du cinéma. Il y a des articles de Critique sur Positif et sur les cahiers du cinéma, que j'ai, non pas redécouvert, mais découvert avec surprise. Et je cite pêle-mêle des articles sur Buñuel. Je cite avec plaisir un article, parce qu'il a dû l'oublier, de Michel Deguy sur le cinéma. J'espère que tu l'as oublié. Sur un film de Biberman, décembre 1970, « Maîtres et esclaves ». Tu t'en souviens pas ?
Non, je m'en rappelle, c'est Trombe.
Ah, mais c'était après, alors. C'était après. Sur Christian Metz, que j'évoquais à l'instant, il y a un article assez curieux et intéressant de Louis Audibert. Et puis, progressivement, un collaborateur de critique, qui aujourd'hui se signale épisodiquement encore, est apparu, Jean-Pierre Nogrette, qui a contribué à introduire en France Raoul Ruiz. Plus récemment, nous avons eu des textes, et ça continue, bien sûr, mais je ne parle que du règne de Piel. Plus récemment est apparu Chantal Thomas, qui a fait un article très intéressant, une comparaison, opposition entre Visconti et Fellini. Le cinéma expérimental lui-même a été étudié assez finement, je trouve, par Didier Caron. Donc le cinéma est vraiment très présent, et il est resté d'ailleurs, dans Critique. L'architecture, elle, qui allait donner lieu à un numéro spécial, l'objet architecture, vers la fin du règne de Piel, est quand même très présent dès le début, grâce à Pierre Charpentras, architecte lui-même, historien de l'architecture, qui a écrit un texte que j'ai lu de bout en bout sur la notion de disparate. Nous sommes en décembre 66. Et le texte qu'il a écrit, en prenant, pour exemple, ce qu'il faut faire quand une cathédrale a été détruite, faut-il la reconstruire, est lisible aujourd'hui de manière saisissante. Et il oppose les intransigeants novateurs, comme il dit, et les conservateurs insubmersibles. Sur Charpentras lui-même, Yves Bonnefoy, à son tour, est intervenu. Il y a tout un jeu d'échanges dès 1965 en proposant une comparaison. Ça se faisait beaucoup à l'époque de Piel, les binômes Visconti-Fellini pour le cinéma et ici, en l'occurrence, pour l'architecture, sous la plume de Bonnefoy, Le Bernin et Borromini. La musique a fait une entrée tardive, mais remarquée, je pense. Dans le numéro même où Derrida a publié pour la première fois sa dissémination, c'est-à-dire février 69, on trouve un article de Michel Serre sur Xenakis, article auquel je confesse ici publiquement que je n'ai rien compris. Ces analyses du stochastique me paraissent un peu suspectes. Mais enfin, quelqu'un a parlé dans Critique de Xenakis. La bande dessinée, là aussi c'était pour moi une surprise, apparaît très vite sous la forme d'un article intitulé « Les comics américains des années 30-40 ». Et j'y ai trouvé, sous la plume de Pierre Fresneau-Deruel, des analyses sur le comique américain comme forme non pas dégradée, mais modifiée, de la fiction épique, débarrassée du psychologisme. Flash Gordon, enfin les plus anciens parmi nous se souviennent peut-être de Flash Gordon, de Brick Bradford. Toi, tu ne lis que Tintin. Mais moi, j'ai lu...
Je lisais Les Pieds Nickelés aussi.
Non, mais là, c'est l'Amérique, c'est autre chose, c'est épique. Brick Bradford, ça te dit rien?
Non.
Voilà, ben lis Critique. Et pour revenir à la France, il y a une bande dessinée française. En février 71, Gilbert Lascaux, qui jouera un rôle non négligeable dans Critique, Gilbert Lascaux a écrit un article assez drôle sur une bande dessinée qui paraissait dans le journal Pilote et qui s'intitulait « Les naufragés du A ».
Ça, je connais.
Ah, ça, tu connais. Et le dessinateur était Fred, ça s'appelait oui. Fred. La sculpture et la danse sont moins présentes. La sculpture l'est un peu grâce à Pierre Schneider, d'une part, et à Yves-Alain Bois, sur lequel je m'attarderai plus tard, commentant Rosaline Krauss. C'est, je pense que le seul article sérieux sur la sculpture à l'époque Piel, on le doit à un compte-rendu d'un ouvrage de Rosaline Krauss, intitulé « Opacité de la culture ». Quant à la danse, c'est tellement difficile de parler de la danse qu'elle est quasiment absente, mais j'ai quand même repéré la présence, grâce à Alain Douot, mars 78, d'un texte assez détaillé sur Merce Cunningham et Caroline Carlson, qui n'ont donc pas échappé à l'attention du Conseil de l'époque. Voilà pour l'extension, rapidement. Quelques mots aussi sur l'évolution, sur ce que j'ai appelé bien imprudemment la compréhension, l'affinement progressif du discours sur l'art et les arts. Cet affinement est très sensible pour qui, comme je l'ai fait, pèle l'oignon de 1962 à 1996. La place occupée par des comptes rendus ou des articles théoriques sur l'art et les arts va sans cesse croissant. Et depuis les notes, au début ce n'était que des notes, ou formules qui n'existent plus aujourd'hui, ce que Piel appelait des vues d'ensemble, c'est-à-dire des petites synthèses, vues d'ensemble. Depuis ces notes et ces vues d'ensemble du début, la revue a évolué, comme vous le savez sans doute, vers des numéros spéciaux. Et ces numéros spéciaux sur l'art, ils sont nombreux. Je ne cite que ceux de la dernière période, mai 81, l'œil et l'oreille, sous-titré du conçu au perçu dans l'art contemporain, janvier 82, quelques écrits sur l'art, c'est le titre, avec Yves Michaud, Jean-Claude Liebenstein, Éric d'Aragon, Dora Valier qui parle de cubisme et couleur, ce qui était, je vous le signale, assez novateur, parce que le cubisme ne faisait à l'époque l'objet que d'analyses formelles, orientées par la géométrie. Et la couleur dans le cubisme était un sujet neuf, il n'y a pas si longtemps. Je poursuis ma petite liste. En août-septembre 85, donc 3 ans plus tard, numéro spécial, photo-peinture, avec Rosaline Krauss, justement, Yves Michaud, Rainer Rochlitz, qui lui aussi, j'y reviendrai, jouera un rôle important, et Jean-Marie Schaeffer. L'année suivante, juin-juillet 86, un numéro presque entier est consacré à Pell, le vieux, le peintre grec, pas Karel Appel, Appel de Zelle, Hopper, et à la musique baroque. L'année suivante encore, janvier-février 87, l'objet architecture, gros numéro, dirigé par Hubert Damisch et Jean-Louis Cohen, avec Massimo Cacciari, qui n'était pas encore devenu maire de Venise, et n'avait pas encore dérapé, et Anthony Widler, que tu connais bien. Et vous voyez qu'il y a pratiquement chaque année un numéro spécial sur l'art, sur un des arts. Et le plus original, peut-être, est un numéro presque spécial de l'avant-dernière année du règne de Piel, juin-juillet 95, sur un sujet fort intéressant, art et paysage, confié à Jacques Lénart, et intéressant dans la mesure où il fait sortir l'interrogation sur l'art, il a fait sortir de la seule interrogation du marché et du musée, ce qui était au contraire une priorité au début du règne de Piel. L'art ne se pratique pas seulement dans les musées, dans les galeries, sur les cimaises. Et Lénart, ou ses collaborateurs et ses amis, en tirait une conclusion intéressante en soulignant que l'idée de beau, l'idée brocardée de beau, ressurgit, disait-il, sous d'autres formes, dans nos discours sur la laideur des banlieues, dans nos discours sur la laideur des paysages, apparaît une exigence nouvelle, différente, de plénitude et d'harmonie. À force de parler de la laideur des banlieues, on fait passer en douce, plus ou moins en douce, une idée de beauté qui n'est plus celle des esthéticiens traditionnels et qui pose des questions inédites. Quelles exigences nouvelles de plénitude et d'harmonie? Ou bien, y a-t-il un coût, une vraie question ça, y a-t-il un coût social de la laideur? Ou encore, l'art doit-il offrir des solutions élégantes aux problèmes sociaux? Par exemple, est-il légitime, au nom du culturel cher à Michel, de faire appel à un artiste pour dissimuler un terril dans le nord de la France ou pour cacher des ordures? Ça, c'est le dernier spécial que Piel est publié. Et il m'intéresse d'autant plus qu'il avait beaucoup surpris Piel, pour qui l'art était essentiellement une question de marché, et il voyait l'art en économiste. Et c'est précisément cela qui va me mener à ma deuxième, ou même seconde, car je n'en aurai pas d'autres, remarque introductive. Piel, en tant qu'inspecteur général, je crois, de l'économie, c'était son titre, a eu d'emblée une attitude différente, fort différente, de celle de son beau-frère par rapport à l'art et aux arts. Très schématiquement, on pourrait dire qu'à l'approche anthropologique de l'art chère à Georges Bataille, Piel a substitué dès son arrivée, une attitude économique et sociale. Et je voudrais vous en donner tout de suite des exemples. En laissant de côté, petite parenthèse, puisque je parle des arts, je laisserai de côté les nombreux textes sur l'esthétique qui posent un sujet un peu différent. Et je le regrette d'autant plus qu'en esthétique, la revue est riche. Hein, Pierre Kaufmann, Michel Deguy, l'esthétique de Baudelaire, etc. Donc je laisse de côté l'esthétique, je ne parle que de l'art. Et c'est ici qu'intervient fortement, beaucoup plus fortement que je ne l'aurais cru avant de commencer à appeler l'oignon, la personnalité et le goût même de Piel. Premièrement parce qu'il est économiste, deuxièmement parce qu'il était fort ami avec des collectionneurs et qu'il m'a très souvent parlé, comme à d'autres sans doute, de Kahnweiler, à qui le grand collectionneur et critique, dont vous savez le rôle qu'il a joué dans l'émergence et le développement du cubisme, et à qui il a confié un article. Il y a un article dans Critique de Kahnweiler. Alors, ce goût personnel, ce goût d'économiste, s'est traduit, bien sûr, inévitablement, par une insistance sur quelques amis qu'il avait, trois essentiellement. André Masson, ça va de soi, qui fait l'objet de nombreux articles dans Critique, par Jean Roudot, par exemple, en juin 1965, article qui reste un peu bataillien, lui, puisqu'il y est question de l'alliance du sacré et du massacre, hein, du sacré de transgression de Bataille. Mais Françoise Ville Levaillant, elle aussi, en 1977, est revenue sur l'œuvre d'André Masson. Et un sociologue, pas n'importe lequel, André Passeron, c'est plus inattendu, qui écrit un texte assez riche sur le même André Masson en octobre 85. Donc André Masson a une place de choix. De même, pour les mêmes raisons personnelles liées à Jean-Piel lui-même, Georges Limbourg, auquel il était visiblement, il en a très souvent parlé, très, très attaché, et à qui il a consacré un numéro. Et le troisième que je citerai, c'est Dubuffet, l'homme de l'oignon, puisqu'il fait partie des Havrais, que je sache. Dubuffet, dès avril 67, fait l'objet d'un des premiers articles, il y aura une série assez longue, qu'illustrera en particulier Hubert Damisch, en novembre 85. Mais ça, c'est le goût personnel. Si je regarde maintenant les textes que Piel lui-même a écrits, parce que là, j'ai parlé au fond de souvenirs personnels, très souvent, il m'a parlé de Kahnweiler, de Masson, de Limbourg, bon. Mais lui-même n'a pas écrit sur Masson, un peu sur Limbourg, mais pas sur Dubuffet et pas sur Masson. En revanche, Piel a écrit lui-même des articles dès sa prise de direction. Sa prise, je parle comme Antoine Compagnon. Dès son accession à la direction de critique, il a écrit 3 articles sur l'art. Et le premier, les 2 premiers en tout cas, méritent que je m'y attarde un peu. Dans le numéro même où est annoncée la mort de Georges Bataille, c'est-à-dire le numéro de août-septembre 62, j'ai lu, et peut-être certains d'entre vous l'ont-ils déjà fait de leur côté, un texte de Piel intitulé « La fonction sociale du collectionneur de tableaux ». Et là, on voit déjà, de manière presque radicale, pas polémique, pas hostile, mais radicale, la différence entre l'approche par Piel de la question de l'art et l'approche bien connue de Bataille. Ce n'est pas du tout la même vision. Ce n'est pas une vision opposée, c'est une vision complémentaire. C'est une vision d'économiste, d'une part, le même qui s'était intéressé au prix des divans en psychanalyse, une vision d'économiste et surtout, ce qui est très frappant, une vision sociale. Je ne dirais pas de sociologue, ce n'est pas un sociologue de l'art, mais c'est un homme qui s'est, de manière obstinée, intéressé à ce qu'il appelle l'éclosion sociale des œuvres. C'est sa métaphore, l'éclosion. Une œuvre d'art ne vaut que par son éclosion. Et l'un des rôles d'une revue, fût-ce critique, c'est-à-dire une revue qui n'est pas une revue d'art, pour les raisons que disait Philippe, mais qui est une revue qui s'intéresse aux arts, l'une de ses fonctions est de contribuer à cette éclosion, à cette efflorescence et à cette éclosion. Donc, c'est par un examen attentif du rôle du collectionneur dans l'histoire et dans le présent que Jean Piel a commencé sa carrière, si je puis dire, de directeur d'une revue qui s'intéresse aux arts sans être une revue d'art. Et je vous lis quelques phrases de cet article, toujours très fécond, à mon sens. Première phrase, il n'est peut-être pas de problème qui reste plus obscur pour l'économiste, donc pour lui, que celui de la formation du prix de l'œuvre d'art. Et le paradoxe, ajoute-t-il, est que nous assistons à une extraordinaire, dans les années 60, nous assistons à une extraordinaire valorisation des œuvres, alors même que l'art vivant revêt des formes toujours plus éloignées de ce qui peut être utile. Moins c'est utile, plus ça gagne et comment, plus ça coûte, plus ça de valeur économique. Pourquoi ? Et c'est ce qu'il analyse, je vous épargne le détail, faute de temps, mais c'est ce qu'il analyse en se plaçant successivement sur un plan psychologique, un plan historique, un plan économique. Sur le plan psychologique, je vais vite, mais l'article est plein de verve et plein d'élan. Il analyse de très près la collectionnite, comme on l'appelait, les raisons qui peuvent amener quelqu'un à collectionner éventuellement n'importe quoi, que ce soit des fèves de galette des rois, des boîtes d'allumettes, des buvards ou des grenouilles empaillées. Pourquoi est-ce qu'on collectionne des œuvres d'art ? Est-ce que c'est la même chose que de collectionner des grenouilles empaillées ? Réponse dans son article auquel je vous renvoie. Mais bien entendu, il y a d'autres motivations qui ne sont pas ou ne devraient pas être le lucre. Et ça, c'est une des obsessions de Piel. Elle est récurrente, elle est exprimée de manière récurrente. Collectionner, oui. Valoriser, oui. Mais éviter, comment éviter que cela vire à la spéculation ? Comment valoriser le rôle du collectionneur en l'opposant à la recherche du lucre et de la spéculation. Comment la collection peut-elle, et à quel prix, et selon quels critères, peut-elle conserver un aspect désintéressé, dispendieux certes, parce que ça coûte cher, Et en principe, ça ne rapporte rien au collectionneur, mais ça rapporte beaucoup à l'art. Et puis, il y a bien sûr, chez certains, chez les meilleurs, une mission d'éducateur, depuis Catherine II au moins, dit-il. Ça, c'est l'aspect psychologique. Historiquement, il s'est bien renseigné, il fait un tableau depuis Rome, Byzance et la Chine, jusqu'à nos jours, en soulignant que la place du collectionneur n'apparaît vraiment qu'à partir du moment où les œuvres, et en particulier la peinture, se détachent des murs. À partir du moment où l'œuvre peut devenir un objet meuble, et par conséquent un objet que l'on peut acheter. À partir du moment où la peinture, concrètement, devient peinture de chevalet. Et un grand changement historique apparaît lorsque on se met à collectionner non plus des genres picturaux. Moi, j'achète tous les tableaux qui représentent des batailles navales, ou j'achète tous les tableaux qui représentent des animaux ou des natures mortes, ou à partir du moment où on change de registre pour acheter des signatures. C'est l'apparition de la signature de l'artiste, jointe au développement de la bourgeoisie, bien entendu, qui permet l'apparition des premiers vrais collectionneurs, c'est-à-dire à partir des années 1835, avec la montée de la nouvelle classe dominante et le changement du statut de l'artiste. Et Piel aboutit à cette conclusion, je le cite, qu'à l'époque contemporaine, c'est la collection qui commande tout le processus de commercialisation des œuvres d'art. Le collectionneur est le premier intermédiaire insurpassable qui permet, voilà la métaphore, l'éclosion sociale de l'œuvre. Miracle s'opérant seulement par le classement dans une collection qui réussit son dessein. Donc, vous voyez qu'il est difficile de pousser plus loin la valorisation du rôle du collectionneur, mais il la pousse, cette valorisation, en gardant un esprit critique aigu et en mesurant les conséquences potentiellement désastreuses, en même temps que bénéfiques, que peut entraîner ce rôle croissant des collectionneurs. La valorisation du singulier, la stérilisation potentielle de l'artiste qui ne s'intéressera plus qu'à produire des choses nouvelles susceptibles d'intéresser le collectionneur, comment s'étonner qu'aujourd'hui l'histoire de l'art s'anime, dit-il, comme une course incessante à la nouveauté. Voilà donc simultanément affirmer la nécessité sociale, économique et sociale profonde du collectionneur et le risque qu'il fait courir, surtout dans une période où la spéculation s'accroît de manière dramatique et où les États eux-mêmes, il prend l'exemple des États-Unis, les États eux-mêmes s'en mêlent et encouragent les collectionneurs, comme les États-Unis qui donnent quantité d'avantages fiscaux aux collectionneurs, aux fondations, etc. Le risque est évidemment qu'il y ait une raréfaction de l'offre. Voilà, très très brutalement résumé, cette position qui, dit-il, appelle un certain nettoyage. Il faudrait se donner les moyens de maintenir la collection en évitant la spéculation, et c'est un travail de titan. Mais il concluait son article, ce premier article consacré aux collectionneurs, par l'annonce d'un second, car à côté du collectionneur, et voilà une figure qui nous intéresse davantage, il y a un second intermédiaire, le critique. L'art ne peut subsister sans les collectionneurs, mais il ne peut pas non plus subsister sans les critiques, surtout quand les collectionneurs sont menaçants. Et dans ce second article, qui est paradoxalement consacré à Taine 100 ans après, hein, il a pris Taine comme prétexte, il développe sa vision des choses. Taine, conclut-il, n'est pas entièrement discrédité. Il se moque évidemment un peu de Taine, tous ceux qui ont vieilli chez Taine, mais il n'est pas entièrement discrédité, même si nous sommes aujourd'hui aux antipodes de lui, parce que, je cite, il a eu le mérite de donner l'exemple d'une recherche des relations entre divers ordres de phénomènes, entre l'artistique, le social et l'économique. Et cette perspective sociale, je répète, Piel ne l'a jamais abandonnée dans ce domaine en tout cas. Ce qui le conduit à poser la question suivante. Parmi les multiples activités qui concourent à faire des productions des artistes des objets dotés de valeur sociale, quelle est, quelle devrait être la fonction du critique d'art? Et il constate, car c'est un article assez vif, hein, il constate premièrement qu'il y a dans la France des années 60 une redoutable permanence de la critique réactionnaire. C'est sa formule. C'est pas nouveau, dit-il, ça a toujours été le cas, devant le fauvisme, le cubisme, devant les informels d'après-guerre, il y a toujours eu une dominante critique négative. Et rien ne facilite l'accès, aujourd'hui, en 60, rien ne facilite l'accès aux œuvres nouvelles. Et faciliter l'accès aux œuvres nouvelles est d'autant plus difficile que la peinture a cessé d'être figurative. Il pose chemin faisant la question de l'ekphrasis, comment faire l'ekphrasis d'un tableau abstrait. On peut le faire, mais ça demande des talents spéciaux. Alors, que doit faire le critique? Premièrement, ne pas baisser les bras, et il se réfugie ici derrière une citation de Valéry, qu'il m'a souvent citée, je dois dire, au Tiburce, le fameux restaurant. Citation de Valéry, « Toute œuvre exige qu'on lui réponde. » Cette obsession de la réponse, c'est le moteur, en matière d'art, j'entends, me semble-t-il, de Jean-Piel. Ce sont les regardeurs qui font la peinture. Sans les regardeurs, sans les réponses, sans l'éclosion sociale, l'art n'a aucun intérêt, en tout cas, il n'est même pas possible. Et la tâche du critique est d'autant plus difficile qu'il traduit en langage littéraire des œuvres qui sont picturales. Et le langage qu'il utilise risque, je cite toujours Piel, d'immobiliser le mouvant, de matérialiser le virtuel, de se borner à dresser des cadres et à coller des étiquettes. Deuxième risque, le goût effréné du nouveau pour le nouveau, des consécrations précipitées, etc. Donc vous voyez qu'il y a une attention soutenue, que je ne soupçonnais pas, encore une fois, avant d'éplucher l'oignon, une attention soutenue à la déontologie du critique et à sa fonction sociale. Contrairement à l'approche, enfin pas contrairement, mais différemment de l'approche de Georges Bataille. Voilà le premier volet de mon diptyque. Le second volet est plus bref, rassurez-vous, plus court. J'ai essayé de vous dire quelles étaient, dans les grandes lignes, d'après ma petite enquête, les positions de Jean-Piel. Reste à voir, second volet, comment ces grandes lignes et ces positions se sont traduites concrètement, effectivement, dans la revue. Et là, pour gagner du temps, je classerai l'ensemble des textes que j'ai pu parcourir en trois catégories. Critique a travaillé dans trois directions en ce qui concerne l'art. Premièrement, des comptes rendus, des éphémérides, l'actualité éditoriale, conformément à son sous-titre. Deuxièmement, elle a produit, c'est déjà plus nouveau, et c'était la volonté expresse de Piel, des synthèses sur des problèmes plus généraux, en tenant compte des débats du jour. Et troisièmement, et c'est évidemment le plus intéressant pour nous aujourd'hui, la revue a produit des textes incitatifs, novateurs, susceptibles de guider vers l'avenir, comme disait Piel en rigolant de son immodestie, comme il disait. Quelques exemples de chacune de ces trois catégories. Rassurez-vous, je ne vais pas faire des listes, même si moi, je les ai faites pour mon compte. Pour l'actualité éditoriale, là, c'est quand même impressionnant, parce que il est rendu compte, au fil de ces années, de pratiquement tous les arts de la planète. Bilan de l'année Michel-Ange, en 1965, par Georges Catoui. Les expositions en cours, Gustave Moreau, par Grojnowski, qui écrit dès cette époque, ou Nicolas de Staël, ou Bram van Velde, Charles Juliet, etc. Intervient à cette époque quelqu'un qui a écrit beaucoup dans Critique, dans les éphémérides de Critique, Pierre Guerre. Et évidemment, Pierre ne manquait pas de rigoler en disant que dans la revue de Bataille, il fallait bien qu'il y ait Guerre. Il me l'a sorti au moins 6 fois, celle-là. Donc, je vous la ressors. Van Gogh, mais aussi les cathédrales, des articles précis sur la cathédrale de Grenade, sur les arts africains, la sculpture nègre, sur Jean Clair, le premier Jean Clair, qui avait beaucoup intéressé, en octobre 1973, Jean Piel. Sur la Biennale de Venise, sur Millet, premier article de Jean-Loup Bourget, qui est resté un de nos collaborateurs. Et puis l'art brut, qui n'a jamais, à cause de Dubuffet bien sûr, qui n'a jamais cessé d'intriguer, sinon d'intéresser, Piel, et qui, d'une certaine manière, continue de nous intéresser. À la limite entre ces textes qui rendent compte, qui sont des comptes rendus, et de la deuxième catégorie, celle des synthèses, on pourrait placer le fameux numéro sur Vienne, numéro daté de 1976, où il est abondamment et finement question de Egon Schiele, Kokoschka, Klimt. Autant de peintres qui n'étaient pas tellement connus du public à l'époque, en vérité. Et cette période a été, me semble-t-il, dominée pour Piel par deux questions, deux grands débats, et ça se voit dans la revue, et j'en ai moi-même le souvenir de nos conversations. Premièrement, la postmodernité, ça l'obsédait, et il a publié avec réticence, parce qu'il le trouvait un peu trop polémique, un article de Lyotard sur la réponse à la question « qu'est-ce que le postmoderne ?». Il a publié aussi sur ce même sujet de la postmodernité, en mars 1984, un texte de Richard Rorty. Et vraiment, ça l'inquiétait. Qu'est-ce que ça veut dire, postmoderne ? Et il n'était pas satisfait de ce que Critique a fait à cet égard. Et une deuxième marotte, si je puis dire, qu'il avait, concerne, et vous allez comprendre pourquoi, ou moi j'ai mis longtemps à comprendre pourquoi, la trans-avant-garde, trans-avant-guardia plus exactement, italienne, en août-septembre 1984. Alors qu'est-ce que c'est que la trans... Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que c'est, mais elle existe encore. C'était à l'époque des peintres comme Mimmo Palladino, Sandro Chia et quelques autres qui étaient exaspérés par tous ceux qui proclamaient la fin de la peinture et le triomphe de l'art conceptuel ou minimaliste, et qui revendiquait au contraire une peinture libre, dégagée de style obligé, et tournée vers le social. Toujours cette obsession de Piel. Ce pourquoi il a confié à Éric d'Aragon, un auteur fréquent à l'époque, un historien de l'art, qui doit d'ailleurs toujours être actif aujourd'hui, le soin de rendre compte de ses peintres Mimmo Palladino, Sandro Chia et d'autres. Voilà pour les éphémérides. Pour ce qui est des synthèses, je passe plus vite, mais elles méritent vraiment un coup de chapeau, parce que c'est vu d'ensemble. Il a arrêté de le faire vers la fin des années 70. Ces vues d'ensemble sont étonnamment précieuses et demeurent tout à fait consultables aujourd'hui. Il y en a eu sur les rapports entre peinture moderne et phénoménologie, donc un texte sur Merleau-Ponty, Il y a eu aussi une vue d'ensemble sur la question du maniérisme. Nous sommes en 64. Hein. Le maniérisme est devenu à la mode bien après. Et il a fallu attendre d'autres vagues, Daniel Arras et d'autres, pour creuser la question du maniérisme. Mais dès 64, je vois un texte de Pierre Missac sur, intitulé « Le maniérisme existe-t-il ?» Ou bien, la même année 64, donc 2 ans après le début de l'ère Piel, vue d'ensemble sur le cubisme par Jean Laude, qui explique que le cubisme n'est pas seulement technique. Le même Laude, bien sûr, a fait une vue d'ensemble, c'était le mieux qualifié pour le faire, sur l'art nègre et les arts d'Afrique noire. Et il fait apparaître un auteur qui ressurgit aujourd'hui, comme vous savez, mais qui à l'époque était dans les limbes, oublié, Karl Einstein, cher à Didier Berman, qui est derrière nos portes. Ou encore, bien sûr, et inévitablement, une vue d'ensemble sur la peinture américaine, dans un énorme numéro consacré aux États-Unis et à la peinture américaine, Jasper Johns, Liechtenstein et tutti quanti. Mais il y en a eu aussi sur des sujets plus inattendus, l'art nouveau, je veux dire celui que les Italiens appellent Liberty, l'art de Guimard, les entrées de métro, hein, les tulipes, les lampes à femmes nues. Bon, il y a un article de Pierre Guerre, justement, qui est assez drôle sur ce sujet et assez polémique, pour une fois, et qui fait apparaître la dérive possible et souvent réelle de l'art nouveau vers le kitsch. Et pour faire bonne mesure, j'évoquerai, pour finir sur ce point, une mise au point, une vue d'ensemble sur l'égyptomanie par Gilbert Lascaux et sur le surréalisme par Jean-Piel lui-même, où il conclut le mouvement, je cite, le mouvement créé par Breton n'a pas donné ce qu'en attendaient ses fondateurs, mais il a propulsé d'autres choses. Troisième et dernière catégorie, dans les quelques minutes qui me restent, ce qui intéressait le plus Jean-Piel, c'était évidemment les textes novateurs et les textes susceptibles de guider, comme il disait. Lui-même emploie ce verbe, guider, dans une petite note très curieuse qu'il a écrite sur Félix Fénéon, en 66. Oui, dès le début, l'intérêt de Piel pour l'art est étonnamment sensible. Dans cet article sur Félix Fénéon, il rend hommage aux destructeurs des valeurs périmées, détruire les valeurs périmées étant une des plus importantes fonctions que puisse remplir un critique d'art. Mais, Félix Fénéon n'a pas pu guider vers des voies d'avenir. Hein, c'est un destructeur ronchon, qui d'ailleurs s'est contenté de devenir un marchand. Et donc, il y a eu constamment un appel de Jean-Piel à des auteurs susceptibles d'ouvrir par leur mode d'écriture, par leur approche, par leur théorie, par leur refus de l'histoire de l'art traditionnel, d'ouvrir des voies nouvelles. Et c'est tellement vrai que les historiens de l'art traditionnels, dans Critique, sont rares. Il y a 2 articles d'André Chastel, avec qui, à mon avis, Jean-Piel ne s'entendait pas trop bien. Mais d'ailleurs, qui s'entendait bien avec André Chastel, je me demande. Et en revanche, une ouverture à ceux comme Roland Recht, par exemple, c'est l'un des premiers, mars 68, qui, s'intéressant à Panofsky, à l'iconologie de Panofsky, qui était tout à fait nouveau en France à l'époque, était capable de sortir la critique d'art et l'histoire de l'art de ce que Piel appelait des ornières. Et de faire comprendre que la Renaissance, par exemple, n'est pas réductible à un style façon Heinrich Wölfflin. Petite parenthèse, j'ai jamais réussi à convaincre Jean-Piel de faire quelque chose sur la Renaissance. Je ne renonce pas à convaincre le directeur suivant. On verra ça. Donc, appel à une écriture nouvelle, pas seulement à des gens nouveaux qu'il aimait bien, parce qu'il les aimait pas tous bien, d'ailleurs. Et il arrivait de se disputer avec certains d'entre eux, je vais vous dire lesquels, car moi, je vais faire des noms. mais des gens qui vraiment faisaient éclater par leur écriture même et leur talent les carcans habituels. Le premier, c'est Jean-Claude Liebenstein, avec qui il a toujours eu des rapports un peu difficiles, dont il y a la trace même dans la revue, parce qu'il y a un article de Liebenstein qui se plaint, qui faisait des acrobaties typographiques impossibles, Liebenstein. Et il se plaint que la direction, c'est-à-dire Piel, ait absolument insisté pour que le titre de l'article apparaisse en premier, alors que lui, il voulait que le titre apparaisse après le premier paragraphe. Et bien, il l'écrit, ça, dans son article. Bon, et j'ai été souvent témoin de rapports comiques entre Liebenstein et Piel, qui étaient faits d'admiration mutuelle, d'affection mutuelle et d'exaspération, pas mutuelle, mais de Piel vers Jean-Claude. Jean-Claude Liebenstein, qui lui a donné quelques articles étonnants, L'espace de l'art, je le mentionne, avril 70, parce que il proposait dès le début de chercher l'espace de l'art au lieu de chercher son essence. Et chercher l'espace de l'art, donc sa dimension sociale, ça ne pouvait qu'exciter Piel. L'espace de l'art n'étant pas évidemment réductible au musée, et d'autant moins réductible au musée que Jean Dubuffet était passé par là. Le musée étant un lieu où les morts risquent d'étouffer les vivants. Et ce même Liebenstein a écrit beaucoup d'articles que je vous épargne, sauf l'un des derniers de la période, dont le titre même était quand même assez provocateur, « Les couilles de Cézanne ». Mais l'expression venait de Cézanne lui-même, hein, puisque Cézanne se flattait d'avoir une peinture bien couillarde. Et ce texte de Liebenstein est vraiment plein de verve, et presque polémique, contre la timidité des musées qui n'exposent que le Cézanne tardif, et pas le Cézanne, pas arrogant, mais violent, obscène des débuts. Voilà donc un des premiers auteurs auxquels s'est intéressé, en tant que guide, Jean Piel. Un autre, c'est Yves-Alain Bois, dont je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais peut-être Michel...
Aux États-Unis.
Oui, il est toujours aux États-Unis. Mais il était déjà aux États-Unis. Et il a beaucoup contribué sur des sujets très variés, à vrai dire. Signorelli, un peu de Renaissance quand même, en 76. La peinture comme modèle, en mai 86. Le trauma des demoiselles, demoiselles évidemment de Picasso, en 88. Un troisième auteur... je vais vous en citer cinq. C'est Damiche, La voix des masques sur Claude Lévi-Strauss, d'autres articles sur Meyer Shapiro, la peinture prise au mot, les rapports entre mot et peinture. Et puis, plus tardivement, a fait son apparition quelqu'un que je crois Jean Piel a beaucoup aimé, comme d'ailleurs tous ceux qui l'ont connu, Louis Marin, qui malheureusement n'a pas écrit beaucoup dans Critique, mais qui a écrit. En particulier sur Pierre Charpentras et sur le baroque. Et réciproquement, sur Louis Marin, Clément Rosset a rendu compte d'un des livres majeurs de Marin, Le portrait du roi, en février 82. Et nous assistons dans cette perspective à l'apparition en août-septembre 73 d'un numéro de Critique qui est stupéfiant, et où on trouve un article, un apax, un article sans équivalent, puisqu'il est signé de le même article, qui est consacré à l'arrêt de Chardin. Il est signé en même temps de Yves-Alain Bois, Jean-Claude Bonne, Jean-Claude Liebenstein, Hubert Damiche. On n'a jamais fait ça, nous.
C'est vrai, hein, on n'est pas assez audacieux.
Et l'article, lui, est audacieux. Alors, il y a des côtés qui font peut-être rire un petit peu maintenant. Mais il reprend, lui, mais par un tour de spirale, une approche bataillienne, bataillesque, puisqu'il part de l'idée, s'agissant de l'arrêt de Chardin, dont vous rappelez ce tableau extraordinaire, il part de l'idée bataillienne que l'art reste ouvert à la représentation de ce qui répugne. Et sur cette répugnante raie, qui fait l'objet d'une étude, le mot même fait l'objet d'une étude sémiologique poussée, tous les homonymes de Ray, pas les synonymes, les homonymes, sur ce sujet, donc, se déploie une écriture neuve, d'autant plus neuve qu'elle est faite à 5 ou 6 mains, consacrée à un sujet qui intéressera de plus en plus Piel, ce qui permet de boucler la boucle et de revenir un peu à bataille, l'informe. Et on voit ressurgir la formule de bataille, vous savez, l'univers est quelque chose comme, comment c'est la formule, comme une araignée ou comme un crachat. Si on dit que l'univers est informe, ça veut dire qu'il est quelque chose comme une araignée ou un crachat. Dans ce même numéro vraiment étonnant, d'août-septembre 1973, vous voyez un article de Damisch sur Paul Klee, intitulé « Égal infini », un sur Léonard vu par Freud. Et puis, je voudrais citer en dernier, avant de conclure en deux phrases, je voudrais citer quelque chose de neuf qui apparaît à la fin, un texte de Michel Thévoz, intitulé « Zoom arrière sur les Ménines », qui est devenu un classique. Je ne sais pas si tous ceux qui sont intéressés aux Ménines savent qu'à côté du texte presque fondateur de Foucault, il y a les objections, les critiques, les contre-interprétations. Il y en a deux, principalement. Une de Michel Thévoz. On dit Thévoz en Suisse ou Thévoz? Comment on prononce le Z suisse? Oh, Thévoz. Donc, moi j'ai toujours prononcé le Z, pardon. Michel Thévoz contrebat, mais avec tous les arguments et tout le respect nécessaire, l'analyse célèbre de Foucault et propose une toute autre interprétation, une toute autre lecture des Ménines, qui elle-même sera contestée plus tard par Daniel Arras. Et là, nous avons un article de fond, un article de théorie de l'art, pas d'histoire de l'art, de théorie de l'art, qui marque le chemin parcouru depuis 1962. Et cela culmine, je vais m'arrêter à cela, avec un texte de Georges Didier-Berman, puisqu'il est derrière nous, daté de juin-juillet 86, consacré à Appel, Appel toujours, le Appel de Zelle, la couleur d'écume ou le paradoxe d'Appel. Et ceux qui s'intéressent au travail de Georges Didier-Berman trouveraient en noyau, in nuque, comme disaient les érudits, tous les thèmes que développera plus tard Georges Didier-Berman. Ils sont présents dans ces quelques pages sur l'informe en particulier. Alors, il me reste 30 secondes pour conclure, avant que le directeur me jette dehors. Mais ma conclusion sera brève. Critique n'était pas, ne sera jamais une revue d'art. Elle n'a pas non plus développé un évangile de l'art, une doctrine de l'art. Elle a des lacunes, on pourrait s'amuser à voir ce qui manque dans ces 35 années, quels sont les mouvements ou les artistes importants dont il n'a pas été question, mais ils ne sont pas très nombreux. Critique, qui n'est pas une revue d'art, a quand même joué un rôle, à mes yeux, stupéfiant en matière d'art. Et je crois qu'il fallait y insister un peu pour qu'on ne pense pas trop exclusivement à Critique comme à une revue de philosophie et de littérature. Voilà, moi j'ai fini d'éplucher l'oignon et j'espère qu'il n'a fait pleurer personne.